on va faire réagir malgré tout nos invités, la politiste Anastasia Colosimo, bonjour, et Raphaël Glucksmann, que nous retrouvons, Raphaël Glucksmann, sur ces Paradise Papers, avec, nous disait Frédéric, un discours de la part de ministres de droite, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, des échos à la Georges Marchais. Que reste-t-il à la gauche sur ce terrain-là ?
Il reste, comme sur beaucoup de terrains, plus grand-chose. Enfin, rien et tout à la fois. Rien parce qu'elle est inaudible et qu'elle est en ruine. Et tout parce que ce qui est important dans la chronique qui vient d'être faite, c'est le mot systémique. Il y a un problème systémique. Encore dans les Panama Papers, on pourrait nous expliquer qu'il s'agissait de pirates. Là, il s'agit d'un système tout entier. Or, la volonté de transformer ce système et de réhabiliter les droits du tout, de l'État, mais de l'État en tant qu'émanation du tout sur les partis, eh bien, c'est censé quand même être le moteur de ce qui a jadis été la gauche. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de projet de transformation. Quand ils étaient au pouvoir, ces soi-disant gens de gauche, il n'y a pas eu cette transformation, il n'y a pas eu cet horizon collectif qui s'est dégagé, et ils le payent aujourd'hui. Mais ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la gauche, eh bien, il va falloir qu'elle retourne à la bibliothèque, qu'elle reprenne chacun de ses mots et qu'elle travaille. Elle n'a pas travaillé en 2002 quand elle s'est pris une claque, elle n'a pas travaillé en 2007 quand elle s'est pris une claque, et finalement le mouvement de balancier traditionnel lui permettait d'être fainéante et de plonger dans un long sommeil dogmatique. Eh bien, au moins, ce qu'on peut reconnaître à ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce balancier, il est brisé, et que si la gauche, elle veut avoir un avenir, il va falloir qu'elle travaille.
Anastasia Colosimo, vous connaissez bien les bibliothèques sur le discours que pourrait porter la gauche, que porte d'ailleurs aujourd'hui la droite. Quelle distinction et quel regard portez-vous ?
Sur les Paradise Papers, je pense que c'est pas, pour le coup, je pense que c'est pas vraiment une question de droite et de gauche ou de gauche. Je pense qu'il y a un problème qui est beaucoup plus fondamental et qui est beaucoup plus systémique et qui est que les États, en fait, n'ont sans doute en amont pas fait le travail, mais aussi que la finance mondiale est devenue tellement tentaculaire, monstrueuse et technique aussi, que les États n'ont plus les moyens, en fait, de leurs ambitions sur ces questions-là, qu'une gouvernance internationale sur ces questions-là paraît impossible, comme sur malheureusement beaucoup de sujets, et que donc voilà, je suis vraiment pas convaincue que c'est une question de droite ou de gauche.
Non, c'est vrai, vous avez raison, c'est une question de la faiblesse du politique face à ces multinationales, et c'est aussi la question de qu'est-ce qu'on veut faire de cette Europe. C'est-à-dire que est-ce que c'est juste un marché dérégulé ou est-ce qu'il y a un projet politique derrière le projet européen ? Et quand on voit l'attitude des Pays-Bas, ça prouve qu'on n'y est pas encore à ce projet politique. Il va falloir réellement faire de l'Europe autre chose que cette commission Juncker.
Oui, mais parce que
Anastasia Colosimo.
Il y a eu un mensonge aussi, je pense, sur le fait qu'il pouvait y avoir une Europe politique, qu'il pouvait y avoir une véritable solidarité européenne. Et on voit très bien ici, justement, typiquement sur ces questions d'impôts sur les sociétés, que cette solidarité, elle n'existe pas. Et on voit mal, d'ailleurs, comment elle pourrait exister.
Ah ben, ça, c'est tout ce qui va nous différencier. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il n'y aura pas de salut en dehors de cette solidarité-là, que donc c'est le rôle, effectivement, d'une gauche internationaliste, de la construire, cette solidarité, de rendre politique le projet européen.
Ou de l'imposer ?
Mais bien sûr, de l'imposer, comme tout projet politique s'impose dans le débat public, démocratiquement. Mais il faut...
Le problème, en fait.
À l'échelle nationale, on n'y arrivera pas. À l'échelle nationale, il y aura toujours ces trous noirs. Et à l'échelle nationale, on peut avoir tous les projets qu'on veut.
Le problème, c'est qu'on a vu dans l'histoire ce que donnait le fait d'imposer la solidarité.
Ah, vous allez me comparer à un nazi, c'est
non,
ça
non, 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 pas du tout, certainement pas.
Mais alors,
non, je parle de la gauche.
Un bolchevique.
Non, je vous compare pas du tout à un bolchevique. Je dis juste que malheureusement, c'est terrible,
mais
c'est difficile d'imposer, en fait, la solidarité. Et on le voit très bien dans le cadre de l'Union européenne.
Eh bien, on n'a même pas tenté dans le cadre de l'Union européenne de le faire. Et donc, il faut construire cette solidarité. Il faut construire un projet. Si les gens n'en veulent pas, eh bien, il faudra accepter de le laisser tomber. Mais ce qui est sûr, c'est que cette Europe de l'entre-deux, du statu quo, ne fonctionne pas.
Ça, on est complètement d'accord.
Il y a un projet, en tout cas, qui fonctionne depuis maintenant bientôt deux millénaires. C'est le projet de l'Église catholique. Et en France, ce projet, il a quelques soucis autour d'une croix. Alors, c'est une croix qui se situe en Bretagne, à Ploërmel, au-dessus d'une statue de Jean-Paul II, une croix qui devrait, si l'on en croit le Conseil d'État, être démolie et qui devrait demeurer là où elle est, si l'on en croit les fidèles, avec une campagne assez importante, là aussi sur les réseaux sociaux, puisqu'il est beaucoup question aujourd'hui de réseaux sociaux dans ces questions relevant de la laïcité, du blasphème. Il faut la laisser, la croix, Raphaël Glucksmann ?
Alors, il y a un énorme quiproquo sur cette histoire qui est, à mon avis, assez révélateur. Le Conseil d'État applique strictement l'article 28 de la loi de 1905. Alors, on peut être contre la loi de 1905, moi je suis pour. Et l'article 28 de la loi de 1905 dit clairement, je le lis, qu'il est interdit à l'avenir d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public, que ce soit à l'exception des édifices servant au culte et des terrains de sépulture. Donc, il y a une application de la loi, et tous les tweets « touche pas à ma croix » où on voit des politiques posées avec soit des croix anciennes et antérieures à 1905 en disant « attention, on va les enlever », c'est complètement faux, on va pas les enlever puisque c'est pas rétroactif. Et deuxièmement, sur les lieux de culte, bien sûr qu'il y a des croix. Simplement, un acteur public, le maire, et un espace public, n'ont pas à ériger cette croix. Et après, la statue de Jean-Paul II restera, parce que c'est un monument culturel d'un personnage historique, c'est tout.
Anastasia Colosimo.
Oui, je suis entièrement d'accord. Je pense que du point de vue du droit, la décision du Conseil d'État est non seulement exacte, mais bonne. Je pense que le Conseil d'État aussi essaye de créer un antécédent. C'est-à-dire qu'il s'adresse évidemment aux chrétiens, mais il s'adresse aussi aux musulmans. Ensuite, pourquoi est-ce que la polémique naît ? La polémique naît aussi autour du fait qu'on a toujours cette impression, et c'est le problème qu'on a aujourd'hui en France, de ces tensions qu'on a intercommunautaires, qu'il y a du deux poids, deux mesures. Et donc, tous ces hashtags, touche pas à ma croix, etc., c'est aussi, mais pourquoi est-ce qu'on interdit la croix ? Et en revanche, on ne fait rien contre les prières de rue, etc. Donc, en fait, ça témoigne surtout, à mon avis, de ces tensions intercommunautaires.
Ce que vous appelez les tensions intercommunautaires, le deux poids, deux mesures, en tout cas, il est très présent dans la polémique aussi, d'ailleurs dans la polémique autour du traitement réservé à Tariq Ramadan. C'est ce qui a permis d'évoquer le terme d'islamo-gauchiste, terme que vous récusez, vous considérez, Raphaël Glucksmann, qu'il est vide de sens, ou principalement à visée polémique. Votre opinion, Anastasia Colosimo, sur ce terme, l'importance qu'il prend dans le débat actuel ?
Je pense que il y a deux choses. La première chose, c'est que on sait d'où la personne parle quand elle emploie le terme d'islamo-gauchiste. Ça, c'est certain. Je pense que c'est un terme plutôt de droite. Mais pas seulement, parce que je pense que c'est aussi le terme d'une certaine gauche. Je pense que ce terme témoigne d'une scission qu'il y a eu au sein de la gauche, entre une gauche plutôt sioniste et pro-israélienne, qui est d'ailleurs dans la rédaction de Charlie Hebdo incarnée par Philippe Val, et qui est suivie ensuite par toute une nébuleuse...
Qui était,
bien sûr. Mais suivie par toute une nébuleuse avec Caroline Fourest, mais aussi au gouvernement de François Hollande, Manuel Valls. C'est donc un certain nombre de personnes qui incarnent une gauche non seulement réconciliée, mais surtout qui est prête à défendre Israël, et toute une gauche qui, en revanche, non seulement est anti-sioniste et plutôt pro-palestinienne, mais là aussi avec, on a envie de dire, un peu 50 nuances de gauche, soit gentiment pro-palestinienne, soit parfois... plutôt très violemment pro-palestinienne, et là qui est incarnée par Edoui Plenel, qui a défendu Tariq Ramadan énormément, qui a écrit un livre pour les musulmans, et qui voit dans le musulman le nouveau juif, avec une sorte de renversement assez intéressant. Donc je pense que ce terme d'islamo-gauchiste, il n'est pas faux, il révèle aussi cette fracture de la gauche. Cette gauche islamo-gauchiste, elle existe. Alors ensuite, on peut considérer que le terme est trop connoté et qu'il est désagréable ou trop péjoratif, mais il existe, sachant que à l'extrême gauche, il y a quand même effectivement une collusion très forte entre le marxisme et l'islamisme, et ça, c'est Ouria Boutelja et un certain nombre d'autres représentants.
Mais alors, est-ce qu'on n'est pas en train de donner à la fois trop d'importance? Vous citiez Ouria Boutelja, qui
on est vraiment sur des personnalités de niche, on est vraiment sur un débat de niche et un débat qui concerne en fait pas énormément de personnes.
Alors, juste pour la présenter en quelques mots et présenter donc le mouvement auquel elle appartient.
Oui. Alors, c'est le Parti des Indigènes de la République, donc c'est un parti qui, en fait, a remplacé la lutte des classes par la lutte des races et par la lutte entre les religions.
Et toujours pour continuer là-dedans, l'un des problèmes du terme islamo-gauchiste, Anastasia Colosimo, c'est qu'en fait, il n'est revendiqué par personne, ce terme.
Non, parce qu'il est péjoratif. Mais en revanche, un Edoui Plenel, quand il écrit son livre pour les musulmans, se positionne clairement en disant « Les musulmans aujourd'hui en France, c'est le nouveau peuple souffrant, il faut être de leur côté, les musulmans sont les nouveaux juifs, etc. » C'est une rhétorique d'ailleurs qui n'est pas très éloignée de celle d'Ouria Boutelja. Donc je pense qu'effectivement, le terme en soi est péjoratif.
Ouria Boutelja est beaucoup plus...
Évidemment, beaucoup plus.
Choquant.
Non, c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de nuances, en fait. Mais c'est un peu, vous voyez, le même mouvement, en tout cas. Et donc, voilà.
Non, mais moi, je me méfie des mots, des termes qui vont mettre toute une ribambelle de gens dans le même sac, alors qu'il y en a qui sont clairement des antisémites absolus et des racistes, et d'autres qui sont...
À qui faites-vous référence
aux indigènes de la République, quand on explique qu'une femme noire ne doit pas porter plainte parce que, contre un homme qui l'aurait violée et qui serait noire, parce qu'il faut d'abord défendre la communauté avant de défendre son individualité. Ça, c'est un discours qui est absolument anti-républicain, et un autre discours qu'on peut discuter, qui est un discours politique. Mais le terme d'islamo-gauchiste, moi je le récuse. Pourquoi ? Parce que c'est un terme qui est utilisé dans une bataille rhétorique et qui, à mon avis...
Mais qui renvoie à une réalité par ailleurs.
Qui renvoie à une réalité.
Mais on est d'accord que c'est un terme péjoratif et...
Voilà, mais en plus, moi, par exemple, si on dit entre laïcard et islamo-gauchiste, moi, je me situe où ? Je me situe sur les thématiques liées, par exemple, à l'accueil des réfugiés, et ben, je serais d'accord avec Edoui Plenel, et sur les thématiques liées à l'intégrisme musulman, et ben, je suis d'accord avec ceux qui le combattent, cet intégrisme. Donc, je veux dire, c'est un peu un terme qui est employé pour désigner n'importe qui. J'ai pas l'habitude de défendre Jean-Luc Mélenchon, mais par exemple, quand on voit Jean-Luc Mélenchon se faire taxer d'islamo-gauchisme, c'est débile. Jean-Luc Mélenchon est un républicain, laïque, français, même investi d'une forme de tradition que moi je ne partage pas totalement d'ailleurs, mais c'est pas un islamo-gauchiste.
Non, je suis entièrement d'accord.
Et Anastasia Colosimo.
On a très bien vu que Jean-Luc Mélenchon a dû affronter au sein même de son parti quelque chose qui était assez compliqué, qui était que dans sa base politique, il y avait cette question-là d'Israël qui était quand même centrale et sur laquelle il a eu quand même beaucoup de mal à s'exprimer parce qu'il savait que ça pouvait diviser aussi sa base politique.
La question de la laïcité.
Mais ce que je veux dire, c'est que Jean-Luc Mélenchon, lui, pour le coup, c'est un laïcard. Dans la vraie tradition française. Et donc, son discours là-dessus, on sent qu'il s'est atténué aussi parce qu'il y a cette fracture à gauche et il y a maintenant, aujourd'hui, je pense, deux gauches irréconciliables.
Deux France irréconciliables, mais malgré tout, ces France ont un certain nombre de variantes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement deux blocs. On le voit bien d'ailleurs quand Raphaël Glucksmann dit qu'il ne sait pas trop où se situer entre les pseudo-islamo-gauchistes et les laïcards. Vous vous situez où, par exemple, Anastasia Colosimo ?
Moi, je dirais que j'ai aussi du mal à me situer entre les deux. Enfin, en tout cas, ce qui est certain, c'est que je suis, mais comme Raphaël Glucksmann, pour la laïcité. Je considère que c'est une bonne loi, la loi 1905. Je considère qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont mal faites, par ailleurs mal comprises, qu'il y a beaucoup de mécompréhension autour de cette loi, et surtout qu'on est arrivé à un moment où il y a énormément de combats de chapelle. En fait, c'est une de Charlie Hebdo, celle qui sort aujourd'hui d'ailleurs, contre Edoui Plenel le montre.
Pour la décrire, peut-être ?
Alors, pour la décrire, c'est donc Edoui Plenel qu'on accuse, il est donc caricaturé, et on l'accuse de n'avoir rien vu, rien entendu, rien dit face à la polémique qui touche Tariq Ramadan.
Avec sa moustache qui lui boucherait les oreilles suite à un certain nombre de contorsions pileuses sur cette couverture. Anastasia Colosimo, néanmoins, lorsqu'on parle de la laïcité et que l'on entend les détracteurs de la laïcité, eh bien, ceux-ci disent que la République a été parfaite pour créer du nouveau sacré et que finalement, eh bien, elle est particulièrement mal à l'aise pour interdire toute forme de sacré puisque elle protège un certain nombre de pans. Alors, chez Ouria Boutelja, il y avait par exemple le discours sur Dieudonné qui consistait à dire que Charlie Hebdo avait droit à la caricature et que Dieudonné ne l'avait pas. Que pensez-vous de ce discours et est-ce que finalement il n'y a pas de poids de mesure sur le sacré ?
Alors je pense qu'en fait il faudrait prendre, voyez, quasiment la question à l'envers pour essayer de comprendre à quel point ces choses sont liées. Lorsque la loi de 1881, qui est la loi sur la liberté d'expression en France, la liberté de la presse, est faite, on pense qu'elle ne sera pas modifiée jusqu'à aujourd'hui. Elle l'est, une première fois en 1972, par la loi Pleven, qui a introduit de nouvelles restrictions autour justement de l'appartenance religieuse, ethnique, etc. Et elle l'est ensuite par les lois mémorielles, avec une véritable inflation législative. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand la loi Pleven réintroduit quelque part un délit de blasphème, les lois mémorielles suivent un peu dans la même logique où on va interdire un certain nombre de discours qu'on considère donc illégaux et immoraux. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a un problème qui est religieux, donc et il y a un problème qui se situe plus sur la vérité historique. Le problème derrière, c'est qu'il y a une confusion totale. C'est qu'on va dire, il y a du deux poids deux mesures parce que cette une de Charlie Hebdo est autorisée, mais en revanche, nier la Shoah, ça n'est pas autorisé, donc c'est un problème de sacralité. La meilleure manière de répondre
Charlie
à ça...
Charlie Hebdo, excusez-moi, je vous ai coupé Anastasia, une de Charlie Hebdo sur la Shoah ne passerait pas par ailleurs.
Mais elle ne passerait pas,
elle serait illégale en fait. Elle serait pour le coup vraiment illégale. Non, elle serait vraiment illégale. En revanche, ce qui se passe, c'est qu'à mon avis, la confusion, premièrement, est d'abord dans la loi. C'est-à-dire que la loi a été mal faite, la loi a été mal comprise, et il y a eu un certain nombre de procès qui ont créé une confusion complète sur, d'une part, ce qui est un blasphème religieux, d'autre part, ce qui est un blasphème républicain. Est-ce qu'il y a du blasphème républicain ? Évidemment. Les lois mémorielles témoignent du fait qu'il y a ce qu'on appelle du blasphème républicain. Ensuite, c'est pour ça que la question du deux poids deux mesures est très complexe, c'est que ces communautés s'organisent soit sur des pans justement d'appartenance ethnique, soit sur des pans d'appartenance religieuse, et que à la fin, on ne s'y retrouve plus.
Non, Raphaël Glucksmann.
Genre, la confusion est délirante. Il y a d'un côté l'extermination de 6 millions de personnes, et de l'autre, un personnage religieux. On est du domaine du fait de l'histoire française et européenne, et de l'autre, d'une croyance. Je veux dire, on peut totalement se foutre de Mahomet, Moïse, ou n'importe quel rabbin, ou n'importe quel curé ou pape, parce qu'il n'y a aucune loi de la République qui nous oblige à les considérer comme autre chose que des individus. Et par contre, comparer ça avec la négation d'un génocide, je veux dire, on est cette confusion qui règne dans ceux qui dénoncent le deux poids deux mesures montre qu'ils ont déjà basculé dans quelque chose de complètement fou. C'est-à-dire que Mahomet devient l'équivalent d'une vérité historique absolument incontestable par tous. Dans ce cas-là, on interdit à Voltaire d'écrire sa pièce, on interdit à Rabelais de parler des curés et finalement on ne peut plus rien dire sur rien. Non, il y a toute croyance politique, religieuse, sociale est absolument attaquable. Par contre, il y a des vérités historiques qui ne doivent pas être niées, et surtout pas mises sur le même plan que des croyances.
Anastasia Colosimo.
Je pense que tout ce qui vient d'être dit est tout à fait vrai. Le problème, c'est que la loi n'est pas claire. Le problème, c'est que le procès qui a lieu contre Charlie Hebdo en 2007, il vient après une série de procès qui donnent raison à des associations catholiques de vouloir interdire des affiches jugées blasphématoires. Donc je pense qu'il y a une confusion qui est terrible. Je pense aussi que concernant l'histoire, il est vrai qu'il y a des vérités historiques que nous défendons tous. Ensuite, souvenons-nous de ce que dit Pierre Nora quand il dénonce justement les lois mémorielles et qui dit l'histoire n'est pas une religion. Nous avons aussi pour nous le fait de considérer que l'histoire est une science, qu'il y a des vérités qui se démontrent et que d'ailleurs nous n'avons pas peur de continuer à démontrer tant qu'il faudra les démontrer parce que nous avons tous les arguments pour les démontrer, mais qu'aujourd'hui, le problème de ces lois mémorielles, c'est qu'on est arrivé à un moment où tous les conflits, en fait, toutes ces tensions intercommunautaires dont on parlait, se jouent sur ce terrain-là, se jouent sur le terrain du judiciaire, se jouent sur le terrain de qui va avoir la meilleure loi, qui va avoir la meilleure jurisprudence, qui va obtenir gain de cause, qui est-ce qu'on a empêché de parler et qui est-ce qu'on a autorisé à parler. Et donc, on voit que la réalité, c'est que même si l'intention a pu être bonne à un moment, le résultat est très nocif.
Raphaël Glucksmann.
Non, je suis d'accord, il y a un vrai débat à mener sur les lois mémorielles. Mais simplement, ce qui est hallucinant, c'est les gens qui mettent sur le même niveau ces lois mémorielles, ces lois historiques, dont on peut discuter du caractère efficace d'abord, et ensuite du caractère justifié, et surtout de la manière dont elles sont produites, mais mettre ça sur le même niveau que mon prophète. Ça prouve qu'on a basculé dans un discours qui, là, touche carrément à l'irrationnel. C'est-à-dire que si on dit « Ah, mais attendez, Charlie Hebdo se moque de Mahomet et du pape, et Dieudonné n'a pas le droit de rigoler de 6 millions de gens qui se sont fait exterminer en fonction de leur race », eh bien, là, on est dans le délire absolu. Or, retrouve à longueur de journée.
Oui, sauf que la réalité,
Anastasia
c'est que... En évacuant le problème parce qu'on considère que c'est tellement aberrant qu'on va juste, en fait, condamner et ne pas donner d'explication. Je pense qu'on évacue toute une part pédagogique qui n'est pas faite du tout d'explication de ces lois-là, mais parce que le fond du problème, c'est qu'il y a un malaise sur ces lois-là. Parce qu'il y a de l'injustifiable et dans la loi Pleven et dans les lois mémorielles.
Il y a aussi une concurrence entre les victimes et une concurrence entre les coupables. Ce que je veux dire par là, en ce moment, dans les réseaux sociaux, lorsque on observe toutes les discussions au sujet de Tariq Ramadan, il y a deux coupables présumés qui sont mis en balance. Il y a d'un côté Tariq Ramadan avec l'islam en toile de fond, de l'autre Harvey Weinstein avec son judaïsme. Et on voit toute une série de discours consistant à accuser Charlie Hebdo, par exemple, de ne pas avoir fait de une sur Weinstein, ce qui est faux, puisqu'il y a eu une sur Weinstein il y a 15 jours. Mais enfin bon, peu importe, la question, en tout cas, est agitée. Et on voit bien qu'il y a cela, Anastasia Colosimo, en arrière-pensée chez ceux qui considèrent que finalement, eh bien, il y a toujours un deux poids deux mesures.
Bien sûr, alors je dirais que oui et non, parce que d'ailleurs il y a eu beaucoup de tweets en fait au moment de l'affaire Weinstein sur invoquant d'autres grandes personnalités juives comme Woody Allen, etc. Donc je pense
qui sont là. Mais aussi.
Attendez, quelle est la relation de Harvey Weinstein ou Woody Allen au fait d'être juif? Là, on parle d'un prédicateur, de quelqu'un qui est un prêcheur, un intellectuel qui se revendique publiquement comme musulman, donc qui a un discours sur la religion, donc on le relie son côté tartuffe à « je vous sers un discours sur la religion » et par ailleurs, je saute sur il est accusé de le faire sur la première étudiante venue. Il y a là un discours qui est évidemment un discours lié à la personnalité, à l'activité. Harvey Weinstein, il faisait pas des prêches sur le judaïsme. Woody Allen, il ne prêche pas à la synagogue. Donc on s'en fout de savoir si Harvey Weinstein est juif quand il harcèle sexuellement quelqu'un. Alors que le problème qui se pose, c'est que l'autre personne, Tariq Ramadan, se revendique de la religion. Sa vie est liée à cette religion qu'il professe et à une éthique de vie qu'il impose. Et donc là, le lien, il est logique. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Il y a juste deux personnalités complètement différentes. L'une s'occupant de religion, l'autre étant peut-être juive. Je ne sais même pas si Harvey Weinstein n'a pas simplement un non-juif. Peut-être qu'il n'a aucune pratique de la religion juive.
Anastasia Colosimo.
Non, mais je pense que c'est évident que ce n'est pas du tout les mêmes situations. Et justement parce que Tariq Ramadan est un prêcheur et qu'il avait un discours d'ailleurs, non seulement sur l'islam, mais aussi sur la sexualité, sur la place de la femme, etc. Donc, il est évident qu'il ne s'agit pas du tout de la même question. En revanche, ce qui est évident aussi, c'est qu'il y a un conflit très fort entre les juifs et les musulmans, et que n'importe quelle occasion de raviver ce conflit-là est une bonne occasion, malheureusement. En ce qui concerne Harvey Weinstein et Woody Allen, c'est évident qu'on est là sur des préjugés antisémites atroces, sur le fait que, voilà, les juifs libidineux, etc. Donc on est en fait dans la reconduction cette... Oui, Raphaël.
Anastasia Colosimo, terminé, et ensuite un mot de conclusion.
Non, je pense que tout... Évidemment, il n'y a pas de poids, de mesure, et ça serait terrible de le dire. En même temps, on est exactement dans ce cas typique où raviver ces tensions-là est toujours une bonne occasion de...
Un tout petit peu attention, on ne peut pas dire les juifs et les musulmans. Moi, je me reconnais absolument pas dans une communauté. Ce discours, en fait, je parle pas du vôtre à l'instant, c'était juste je réagissais à les juifs et les musulmans. Ce discours me morifie, en fait. On assigne les gens à résidence identitaire. Il n'y a pas les juifs et les musulmans.
Non, c'est évident. Mais il y a des personnes pour qui désignent des juifs et qui, malheureusement, désignent des musulmans. Et les relations n'est complètement d'accord. C'est un problème de fond.
Il y a les racistes et les antisémites d'un côté, et de l'autre, les gens qui se reconnaissent comme des individus qui peuvent avoir une foi ou qui peuvent ne pas en avoir et qui, fondamentalement, en ont ras-le-bol d'être désignés dans des groupes les juifs et les musulmans. Genre, moi, si on m'intègre dans les juifs, ça me file de l'urticaire et j'ai envie de crever, quoi. Je ne suis pas les juifs et je ne fais pas partie des musulmans non plus, d'ailleurs.